Il y a tout juste une semaine, le géant Facebook annonçait l'embauche de 10 000 personnes, surtout des ingénieurs, en Europe pour bâtir son nouveau projet, le Metaverse. Le Metaverse, en quelques mots, c'est l'avenir d'Internet, un monde virtuel où tout un chacun pourra se promener dans le futur pour rencontrer ses amis, faire ses achats, travailler, jouer ou encore se soigner sur une seule et même plateforme. Mais ce projet est-il viable et l'avenir de notre économie ou simplement un fantasme de milliardaires biberonnés à la science-fiction? Qu'a donc Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, derrière la tête et d'autres avec lui? Bonjour. Bonjour Élise Vignacourt.
Bonjour Philippe Bourdet.
Vous êtes journaliste à Libération, vous avez notamment écrit un dossier complet sur le métavers cet été qui nous avait passionnés, c'était le 15 août, mais on était déjà rentrés. Bonjour Julien Pillot.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. D'abord, je vais commencer avec vous Élise Vignacourt. D'ailleurs, vous commencez, c'est votre première radio.
Exactement.
Pour commencer, d'où vient ce mot barbare, métaverse?
Alors, il faut savoir que le mot métaverse, ça vient de deux mots différents. Le premier en grec, méta, qui veut dire au-delà d'eux, et le second qui vient de l'anglais, attention pour l'accent, universe, pour univers. Donc, si on traduit littéralement, ça veut dire aller au-delà de l'univers.
Comme la métaphysique et ce qui est au-dessus de la physique.
Exactement.
Donc voilà d'où ça vient. On sait qu'il a créé ce mot.
Oui, Neil Stephenson, dans un livre de science-fiction qui s'appelle Le Samouraï Virtuel, qui est paru dans les années 90.
Alors concrètement, en quoi ça consiste?
Concrètement, pour vous l'expliquer, le métaverse, un peu comme dans les jeux vidéo, ce serait un monde entièrement virtuel dans lequel on serait immergé et dans lequel on pourrait en fait faire tout ce qu'on fait dans la réalité, entre guillemets, physique.
C'est-à-dire que c'est virtuel, mais c'est nous.
C'est ça. Faire travailler, faire du shopping, voir des amis, de la famille, tout ça serait réalisable.
Mais alors, il faut quand même expliquer à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire qu'on aurait par exemple notre avatar et on se promènerait dans un grand magasin, mais ça serait nous-mêmes. On pourrait essayer des vêtements, mais notre avatar serait déjà à notre taille. Donc ce serait à la fois comme un jeu vidéo et un truc sérieux. On pourrait faire des achats sérieux, on pourrait s'amuser. Tout est mélangé et il y aurait, si j'ai bien compris, qu'une seule et même plateforme. Julien Pillot, je me tourne vers vous. Pourquoi Facebook s'intéresse-t-il à cette technologie du futur et cette annonce énorme de 10 000 salariés, 10 000 emplois créés en Europe étalés sur les 5 prochaines années?
Bon, il y a beaucoup de raisons à cela, mais on va dire que les principales, ce sont déjà que Facebook, finalement, son cœur de métier, c'est quoi? C'est de connecter les gens, c'est de créer du lien social à travers ses différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Et finalement, un métaverse, c'est l'extension 2.0, si j'ose m'exprimer ainsi, de ce que cet Internet aujourd'hui par écran interposé. Ben voilà, dans le métaverse, ça a été dit, mais vous allez avoir tout un tas d'interactions sociales, une vie économique alternative. Et finalement, il est logique qu'une entreprise comme Facebook, qui propose déjà ce type d'interaction sociale de façon très 1.0 aujourd'hui, s'intéresse à un tel marché qui est qu'une évolution technologique de ce qu'il fait déjà. Et puis, la deuxième raison, qui est peut-être un peu moins connue, c'est que Facebook, en 2014, s'est porté acquéreur d'une entreprise qui s'appelle Oculus. Et Oculus, son cœur de métier, c'est de fabriquer des casques de réalité virtuelle. Or, le casque de réalité virtuelle, c'est aujourd'hui l'outil qui va être utilisé pour pouvoir finalement connecter les personnes que nous sommes à leurs avatars virtuels dans ces fameux métaverses. Donc vous imaginez bien que derrière cette volonté de Facebook de figurer parmi les pionniers du métaverse, c'est à la fois pour ne pas être décroché dans ce qu'il sait déjà très bien faire et qui lui rapporte déjà beaucoup d'argent, et en plus de ça, la possibilité de nous vendre des casques de réalité virtuelle à très grande échelle.
Et en espérant que le prix baisse, juste un mot sur le casque de réalité virtuelle, c'est formidable quand on fait un jeu vidéo. Moi j'ai vu des documentaires comme ça, c'est absolument dingue. Mais à quoi ça sert pour aller acheter une pizza avant un match?
Ouh, c'est très bonne question. Alors pour l'instant c'est un peu compliqué à réaliser d'aller acheter une pizza avec son casque de réalité virtuelle. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a déjà des jeux en réalité virtuelle qui s'apparentent plus ou moins à des métavers, comme par exemple VRChat.
Vous dites métavers.
Ou métaverse, alors
et
c'est un peu le débat.
Pillot, vous dites du métaverse, on va le prononcer à l'américaine, métaverse. 10 000 emplois créés en Europe par Facebook. Il y a déjà 10 000 salariés de Facebook qui travaillent sur ce thème, sur cette technologie aux États-Unis. Est-ce que Mark Zuckerberg veut abandonner son réseau social, Élise Vignacourt? Il y a des annonces très très fortes qui ont été faites. Il y a le magazine The Verge qui annoncerait un changement de nom. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les infos?
Alors, à quel point il veut vraiment abandonner Facebook, pour l'instant, c'est compliqué de le dire. C'est difficilement imaginable. En tout cas, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il voyait très bien le métaverse comme étant l'avenir d'Internet, tout simplement. Ce qui paraît en soi logique, puisque Internet, quand on regarde son évolution, c'était d'abord quelque chose de service qu'on consultait pour avoir des renseignements, je sais pas, des adresses, par exemple. Ensuite, c'est devenu un peu plus dans l'interaction avec des utilisateurs qui pouvaient communiquer via des blogs, des forums. Par la suite, on a eu l'Internet mobile qui nous suivait avec le portable, etc. Donc, ça paraît logique qu'avec le métaverse, l'Internet, on puisse entrer dedans spatialement.
Je vous pose la même question, Julien Pillot. Selon vos informations, je rappelle, non, je ne l'ai pas dit encore, que vous êtes chercheur à l'INSEC. C'est quoi l'INSEC d'un mot?
C'est une école de commerce qui a 3 campus sur Paris, Lyon et Bordeaux et qui délivre un programme grande école.
Selon vous, que veut faire Mark Zuckerberg? Est-ce qu'il veut tenter de faire oublier ce nom de Facebook qui est entaché de plusieurs affaires et profiter du métaverse pour se refaire, si j'ose dire, une virginité?
Les voix de Mark Zuckerberg sont impénétrables, si j'ose dire. Mais la vérité, c'est que si on y réfléchit bien, Facebook ne serait pas la première entreprise à changer de nom dans l'univers de l'informatique. Google l'a fait il y a quelques années pour créer une entreprise qui s'appelle Alphabet, qui va piloter les différentes activités de Google. Il est possible aussi que derrière la volonté éventuellement de changer de nom de Facebook, il s'agit de créer une espèce de marque ombrelle qui va pouvoir piloter les différentes activités de Facebook. Parce que Facebook est en train de se diversifier. Il l'a déjà fait en acquérant des entreprises comme Oculus, j'en ai parlé tout à l'heure, en acquérant Instagram, en acquérant WhatsApp. Et peut-être que c'est aussi l'astuce qu'ils ont trouvée pour pouvoir tout simplement bien piloter l'ensemble de ces activités très diversifiées en les classifiant en silos.
Je parle de Facebook, mais non, il n'y a pas que Facebook. Pour citer qu'un exemple, Epic Games, qui est une grosse entreprise de jeux vidéo, a levé $1 milliard en avril dernier pour créer un métaverse. S'il y a tant d'investissements, Alice Vignacourt, c'est qu'on peut s'attendre à ce que le métaverse soit dans notre quotidien, dans un futur proche. C'est quoi ce futur proche? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans?
Alors, selon Facebook, ça serait 5 ans. Dire à quel point ce serait un futur proche, moi, je peux pas trop m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on voit avec Fortnite, qui est le jeu possédé par Epic Games, je vais y arriver, c'est que le métaverse a déjà une forme de réalité avec notamment, par exemple, l'organisation de différents concerts. On a vu Travis Scott pendant le premier confinement, Ariana Grande en août. Là, bientôt, Aya Nakamura. Donc, le métaverse a déjà une forme de réalité au sein de Fortnite.
Et puis, pour mieux savoir à quoi ressemble le métaverse, il y a le film Ready Player One. On vous en fait entendre un son dans quelques instants. On parle du métaverse, ce sont les vrais qui sont avec nous. C'est Julien Pillot, il est enseignant et chercheur à l'INSEC. Élise Vignacourt, elle est journaliste à Libération. Culture Média continue. Nous plongeons dans le métaverse, ce monde parallèle et virtuel dans lequel nous pourrons nous promener en quelques années. Il paraît que c'est l'avenir d'Internet. Tel que nous le connaissons aujourd'hui, le patron de Facebook y croit beaucoup. Il a annoncé la semaine dernière, après 10 000 emplois créés aux États-Unis, 10 000 emplois créés à venir sur les 5 ans en Europe. Si vous voulez savoir à quoi ressemblerait un monde doté d'un métaverse, il faut voir le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui était sorti en 2018. Le film, l'action se passe en 2045. Tout le monde se retrouve dans l'Oasis. C'est le métaverse imaginé par Spielberg.
Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Tu le sens, ça?
Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday.
Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de $500 milliards et aura le contrôle total de l'Oasis.
Nous sommes avec Élise Vignacourt, elle est journaliste à Libération, elle a consacré un long papier, et c'était la une d'ailleurs de Libé, le week-end du 15 août, Métaverse, adieu monde réel, la question que vous vous posez. Julien Pillot, vous êtes enseignant et chercheur à l'INSEC. Est-ce que vous trouvez réaliste ce qu'on voit dans le film de Spielberg? Vous avez pensé quoi de ce film?
Déjà, c'est un film que j'adore parce qu'il y a un côté visionnaire et Spielberg n'est pas à son coup d'essai en la matière, puisqu'on peut se rappeler du film de 2002, Minority Report, qui avait donné beaucoup d'idées à tout un tas d'ingénieurs de par le monde pour construire un futur technologique qui ressemble beaucoup à celui que l'on connaît aujourd'hui. Mmh. Et donc oui, c'est un excellent film. Et effectivement, le métaverse qui y est présenté, l'Oasis, est une espèce de vision fantasmée de ce que pourrait être un métaverse, mais après des années et des années et des années de développement. Et quand je parle d'années, je parle plutôt en décennies, hein, parce qu'avant qu'on arrive à ce niveau d'interaction avec un univers virtuel, il va falloir faire plusieurs sauts technologiques, et dans un premier temps, on va se contenter d'expériences qui sont nettement plus, on va dire, modestes dans leurs ambitions, mais néanmoins très importantes pour pouvoir avancer.
Vous parlez de sauts technologiques, le métavers, c'est parti de l'univers des jeux vidéo, c'est bien ça?
Absolument, absolument. C'est vraiment un fantasme qui est poursuivi par beaucoup de développeurs de jeux vidéo depuis que les jeux vidéo se développent. On pense jeux vidéo en réalité virtuelle pour donner un côté expérientiel et un côté ludique encore augmenté à nos univers en fait vidéo ludiques. Et oui, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui les premières tentatives, les premières expériences de type métaverse, toutes modestes soient-elles, soient des expériences qui soient vécues à travers le prisme du jeu vidéo. On a parlé tout à l'heure de Fortnite. Mmh. Bon, on pourrait remonter encore auparavant avec des jeux comme Second Life qui proposaient déjà des sortes de métaverse avec les technologies de l'époque. Hein. C'était vraiment au début de ce siècle où il s'agissait en fait de recréer à travers nos avatars une vie alternative où nos avatars peuvent avoir une vie économique, une vie sentimentale, une vie ludique à travers un espèce de grand bac à sable dans lequel en fait tout un tas de développeurs indépendants peuvent coder certaines expériences, une boîte de nuit, des commerces, etc. Ouais. Bon voilà, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment ancré dans l'univers du jeu vidéo et dans l'imaginaire du jeu vidéo.
Pour expliquer ce qui se passe vraiment pour les gens qui nous écoutent, c'est que quand vous alliez sur ces sites, ces jeux vidéo, tout était virtuel, alors que là avec le métaverse, vous pourrez aller commander une pizza et il y a quelqu'un qui vous la porte chez vous dans les 20-30 minutes. Il y a juste une chose qui me fait sourire, c'est que si tout le monde va sur Metaverse, les parents pourront plus engueuler leurs enfants quand ils jouent trop à la console, puisque tout le monde sera sur une sorte de console. voilà, vous êtes d'accord avec moi. J'entends assurer que vous êtes d'accord avec moi. Le marketing s'empare déjà des univers parallèles. C'est le cas avec Fortnite, puisque vous en parlez. C'est l'un des jeux les plus populaires du monde. Il y a des stars de la musique qui sont produites dans le jeu. Vous l'avez dit, Élise Vignacourt, notamment Ariana Grande, la chanteuse américaine. On écoute un peu. Élise Vignacourt, vous avez vu le concert d'Ariana Grande sur Fortnite ?
Moi, j'en ai vu des extraits.
Alors, racontez à quoi ça ressemble.
C'est hyper impressionnant. On voit la chanteuse qui est vraiment incarnée comme un avatar en tant que telle. Et on voit des joueurs tout autour d'elle qui participent au concert. Et une masse d'effets spéciaux. C'était une expérience assez unique pour les joueurs qui ont pu y assister.
En avril 2020, le rappeur Travis Scott, vous l'avez parlé, ou plutôt son avatar, vous en avez parlé, pardon, son avatar a donné un concert en ligne sur Fortnite. Le concert a été suivi par 12,3 millions de personnes dans le monde. C'est-à-dire que quand il levait la main droite, tout le monde levait la main droite, idem pour la main gauche, tout était en temps réel et il y avait 12 millions et demi de personnes. On imagine que les stars vont avoir un intérêt énorme à se produire sur le métaverse.
Oui, il y a un intérêt économique aussi. Si on reprend une information de Forbes, Travis Scott aurait gagné à peu près 20 millions de dollars grâce à ce concert. Donc effectivement, les stars vont forcément plus ou moins s'y intéresser.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des dérives? Parce qu'on sait comment tout démarre joliment et puis ensuite, il y a plein de choses qui se déroulent très très mal. Je vous entends sourire, Julien Pillaud. Quelle dérive craignez-vous avec le métaverse?
Moi ou Julien Pillaud?
En fait, les mêmes
Julien,
dérives
que... Julien et ensuite Élise.
Moi, je pense qu'on peut craindre les mêmes dérives que celles qui existent déjà dans l'Internet tel qu'on le connaît. Je veux dire, les dérives qu'il peut y avoir derrière sont des dérives déjà d'addiction à un univers. Mais ces addictions, elles existent déjà dans l'Internet tel qu'on le connaît. On a même des applications, des voleurs d'attention, on va les appeler comme ça, qui sont programmés de telle sorte à faire en sorte de maximiser votre temps de connexion sur l'application. Elles font appel aux neurosciences pour générer tout simplement des stimuli, générer de la dopamine en fait, pour faire en sorte que vous passiez un maximum de temps sur l'application. Pourquoi ? Parce que finalement la valeur que vous avez créée pour l'application va dépendre en partie du temps que vous avez passé dessus. Et en outre, quand vous passez du temps sur telle ou telle application, vous n'en passez pas sur d'autres applications, vous n'avez pas le temps de quitter. Donc c'est bon pour vous et c'est quelque part contraignant pour vos concurrents. Mais en fait, globalement dans le métaverse, on va avoir aussi ce type de problématiques qui peuvent se faire jour, c'est-à-dire que on peut imaginer que des entreprises auraient très intérêt à ce que vous passiez un maximum de temps connecté dans ce métaverse parce que vous avez créé beaucoup beaucoup de valeur et ce faisant elles vont peut-être créer aussi des mécanismes qui vont vous rendre accro à cet univers.
D'un mot, je pensais à des dérives encore plus graves. On a vu cette jeune adolescente qui s'est suicidée parce qu'elle avait été harcelée sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut aller jusque là selon vous, le métaverse, si on a un avatar qui nous ressemble beaucoup et qui se fait harceler sur le métaverse? Élise Vignacourt.
Tout à fait, c'est effectivement une des dérives possibles. On a déjà vu d'ailleurs dans certains jeux de réalité virtuelle des formes d'harcèlement arriver. J'ai oublié le nom du jeu en question, mais où une jeune femme expliquait avoir été harcelée sexuellement, ce qui bien sûr pose des questions très intéressantes parce que c'était pas son corps à elle, mais un corps virtuel qui avait été harcelé. Dans ces cas-là, comment on fait ? Facebook a développé d'ailleurs un jeu de réalité virtuelle qui s'appelle Facebook Horizon, dans lequel ils ont mis en place tout un système pour permettre aux gens de fuir des situations de harcèlement. Ils ont un bouton sur lequel ils doivent appuyer, ils se retrouvent par éjecter du jeu en tel quel. Donc forcément, c'est des questions auxquelles il faut penser dès maintenant.
Merci beaucoup pour cet éclairage sur le métaverse. Et Élise Vignacourt, je rappelle qu'on peut vous lire dans les colonnes du journal Libération. Julien Pillot, je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur à l'INSEC. Et pour être complet, je voudrais citer la une du nouveau magazine d'actualité scientifique Epsilon. Bienvenue dans le métaverse, le premier monde parallèle, la couve et beaucoup, beaucoup de pages. Merci d'avoir été avec nous en direct et pour de vrai.